vie de victoire.
Para conocer una vida de victoria.
Dieu te veut seul avec lui à la montagne. Dieu est toujours au contrôle.
Dios tiene siempre el control.
Dieu est toujours au contrôle.
Dios tiene siempre el control.
Sois calme, garde confiance à Dieu. Et rien n'est jamais impossible.
Y nada es imposible.
Il n'est jamais trop tard.
Nunca es demasiado tarde.
Il n'est jamais trop tard.
Nunca es demasiado tarde.
Tout est toujours possible.
Guadeloupe, c'est ton temps. Viens découvrir la grande manifestation de la puissance de Dieu du jeudi 24 au dimanche 27 mars 2011 avec l'évangéliste international le docteur Roger Houtsis dans la salle.
Chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que ce matin je viens vous apporter la parole de Dieu, la parole de vie. Et la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est important que vous puissiez écouter la parole de Dieu, être nourri par la parole de Dieu pour avoir une grande foi. Une grande foi prend ses racines dans la parole de Dieu. Je tiens à saluer tous les amis téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier sur onction.com. Onction.com, c'est une chaîne de télévision, une page web où il y a la chaîne de télévision TV Chris qui est suivie dans le monde entier, que cela soit au Canada, en Colombie, en Afghanistan. Les gens peuvent se connecter et écouter la parole de Dieu. Et je tiens aussi à vous signaler que cette émission est retransmise en direct dans toute la métropole par le Bouquet Free, la chaîne 222. La chaîne 222. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la puissance de la confession. Troisième partie, la puissance de la confession. Et je crois que beaucoup de chrétiens comme de pasteurs, nous avons souvent pas pris conscience de l'importance de chaque mot qui sort de notre bouche. Nous n'avions pas souvent pris conscience et c'est la raison pour laquelle, des fois, nous avions fait du mal aux gens en prononçant certaines paroles. Et parfois, nous n'avons pas déclaré certaines bénédictions, certaines choses par ignorance. Et parfois, là où nous aurons pu même stopper certaines attaques de l'ennemi dans nos vies, on n'a pas pu les stopper parce que nous n'avions pas pris l'importance de la puissance de la confession de paroles qui sort de nos bouches. Et c'est la raison même pour laquelle quand Dieu appelait les patriarches, il changeait leur nom. Sarai, son nom a été changé en Sarah, pour que chaque personne qui prononçait le mot de Sarah puisse prononcer, même sans le savoir, la bénédiction pour Sarah. Abraham fut transformé en Abraham. Jacob, qui signifiait voleur et usurpateur, fut transformé en Israël. C'est parce que Dieu lui-même, le Créateur, sait l'importance des mots, des paroles que nous prononçons. D'ailleurs, Dieu lui-même, le Créateur, au commencement, il a créé toutes choses avec la parole de Dieu. Et rappelez-vous, au commencement, il y avait Dieu, le Père, qui était là. Il y avait le Saint-Esprit qui était là, qui mouvait au-dessus des eaux. Et il y avait aussi les eaux qui couvraient toute la terre. Nous allons voir que ces trois éléments qui sont importants, être en communion avec le Père, avoir l'onction du Saint-Esprit et demeurer dans la parole de Dieu pour que les mots que nous proclamons puissent prendre vie. Parce que si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, croyez-moi, si vous ne vivez pas la parole de Dieu, vous pouvez confesser de belles phrases, prononcer de belles choses, vous êtes en train de parler dans le vide. La puissance, les mots qui sortent de nos bouches sont accompagnés de l'onction du Saint-Esprit. Seulement dans la mesure où la parole de Dieu demeure en nous, et que nous aussi nous demeurons dans cette parole. C'est comme un poisson qui a de l'eau dans son corps et qui vit dans l'eau. Tu sais que Jésus-Christ a voulu dire dans l'évangile des Jean en disant, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demanderez au Père, cela vous sera accordé. Ça veut dire simplement que tout ce que vous proclamerez, que vous confesserez dans vos prières, dans votre vie, en accord avec le Père, comme au jour de la création, cela va se réaliser. Si la parole de Dieu demeure en nous, et la parole demeure en nous lorsque nous avons la connaissance de la parole, lorsque nous connaissons la parole, et nous demeurons dans la parole de Dieu lorsque nous vivons cette parole, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui ont la parole en eux, mais qui ne sont pas dans la parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent même les prédications de mémoire, mais qui ne vivent pas la parole. Et quand vous ne demeurez pas dans la parole, il y a deux réalités. La parole de Dieu demeure en nous. Et vous savez, le Saint-Esprit est en nous. Donc si la parole demeure en nous, ça veut dire que tout ce que nous confessons en nous est créé par le Saint-Esprit dans le monde spirituel. Cela existe en nous. C'est comme une femme qui est enceinte, crée les choses. Le royaume des cieux est au-dedans de nous. Le royaume des cieux est au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Tout ce que nous confessons, nous le créons d'abord en nous. C'est comme une femme qui reçoit la semence de l'homme. Et quand elle reçoit la semence de l'homme, le bébé est dans son ventre. Mais maintenant, pour que ce bébé sorte du ventre, pour qu'il puisse accoucher de bébé, il faut que cette parole qui est en nous soit en accord avec cette parole que nous vivons. Lorsque ce que nous confessons est en accord avec ce que nous vivons, il y a création dans le monde matériel. Des fois, nous confessons, nous proclamons des choses, plein de choses par la foi. Mais ces choses-là sont créées dans le royaume des cieux. Ces choses-là existent dans le monde spirituel. Les choses matérielles ont été créées à partir des choses spirituelles. Lorsque nous confessons certaines choses, cela est créé dans le monde spirituel. Mais pour que ces choses se matérialisent, il faut que notre vie matérielle, que notre vie terrestre soit en accord avec la parole qui est en nous. Et voilà pourquoi, un exemple, je donne ma dîme chaque jour, je donne ma dîme au Seigneur chaque mois, et lorsque j'ai des problèmes et j'ai besoin d'aide financière et que j'ouvre ma bouche, je proclame la prospérité, et je crois à cette parole qui dit que je dois prospérer, cette parole qui est en moi. Le Seigneur dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai cette parole-là dans mon esprit, dans mon cœur, et je confesse cette parole. Et que le Saint-Esprit voit que ma vie correspond, parce que aussi, ma vie est en accord avec la parole de Dieu. Je mets Dieu chaque mois en épreuve, en donnant ma dîme. Automatiquement, la parole que j'ai confessée en moi crée la richesse spirituelle, et cette richesse se matérialise parce que ma vie terrestre correspond exactement. C'est pour cela que je vous dis, il ne suffit pas seulement de se mettre à crier victoire, victoire, mais il faut mener une vie de sainteté, une vie d'intégrité. C'est la raison même pour laquelle Dieu a dit à Abraham, sois intègre, sois intègre. Nous allons voir que la confession de la foi peut accélérer le processus de l'intervention divine. La confession de la foi peut accélérer le processus de l'intervention divine. Nous allons voir aussi que la confession négative peut vous priver de bénédiction. Nous allons voir troisièmement que la confession négative aussi, les paroles qui sortent de nos bouches, peut légitimer les attaques démoniaques. Alléluia. Nous allons voir dans certains cas que la confession de la foi peut sauver même la vie de quelqu'un que nous aimons. La confession de la foi, vous pouvez sauver des vies, sauver des âmes en confessant la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans... Nous allons voir cela prochainement. Nous allons d'abord commencer dans Matthieu chapitre 12, verset 34. Matthieu chapitre 12, verset 34. Lui-même le Seigneur, il a compris l'importance de la confession, des mots qui sortent de nos bouches. Et comprenez bien que la création même vient de la parole. Tout a été créé par la parole. Donc, enfant de Dieu, vous ne devez pas dire n'importe quoi. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 12, verset 37, il dit quoi? Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ou par tes paroles tu seras justifié. Bon, je remonte au verset 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ça veut dire que, au jour du jugement, nous allons tous nous rendre compte que tout ce que nous prononçons a été des choses que nous avions créées. Nous avons créé des morts. Nous avons tué des gens sans se rendre compte, parfois en insultant. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que quiconque insulte son prochain a déjà commis un meurtre. Parce que ce sont des choses que nous créons spirituellement. Prenez conscience que vous n'êtes pas n'importe qui. Et que éduquez votre bouche à parler dans le même sens que vos prières. Éduquez votre bouche à confesser la parole de Dieu. Nous allons voir dans Joël chapitre 4, le verset 10. Joël chapitre 4. Le verset 10, ce que dit la parole de Dieu. Bon, dans certaines versions, c'est Joël chapitre... oui, je vais voir si... non, ici, il y a que le chapitre 3. Joël chapitre 3, verset 10. Non, dans ma version, c'est Joël chapitre 4, le verset 10. Il dit quelque chose de très, très important. Nous allons aller lire cela. Bon, ici, dans ma version, il dit simplement que le faible dise « je suis fort ». Que le faible dise « je suis fort ». Nous allons voir maintenant que la confession de la foi peut accélérer le processus de l'intervention divine dans votre vie. Nous allons voir cela dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 7. À partir du verset 1. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1. Non, c'est plutôt Luc. Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Pardonnez-moi. Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Merci Seigneur. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instances supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation » est celui qui a bâti notre synagogue. Ouh, il a bâti notre synagogue. Il aime notre nation. Il aime son serviteur. Il aime notre nation. Il a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine. Ne perds pas beaucoup de temps quelque part. Car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et à l'autre, va, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » C'est extraordinaire. Voilà, je dis que ce monsieur avait une grande foi. Mais vous savez, sa foi s'est manifestée par les œuvres. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir la foi, prétendre avoir la grande foi et détester les gens. Ce monsieur aimait beaucoup son serviteur. Il aimait beaucoup la nation d'Israël. Il aimait beaucoup, il a même construit la synagogue pour les Juifs. Et voilà pourquoi Dieu lui a jugé que cet homme-là était agréable. Dieu sûrement l'a communiqué cette foi. Vous savez, lorsque vous marchez près de Dieu, lorsque vous êtes agréable à Dieu, Dieu vous contamine sa foi. Et en marchant avec Dieu, en étant agréable à Dieu, votre foi va grandir. Je ne pense pas que ce monsieur ait une grande foi comme ça dans le vide. Mais il était engagé dans l'amour pour la nation d'Israël. Il était engagé dans la construction des synagogues et dans l'amour pour son serviteur. Mais ici, nous voyons la puissance de la parole, la puissance de la confession. Cet homme-là, il a confessé quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ sur terre n'a admiré rien d'autre que la foi de cet homme-là. Il n'a pas admiré une belle femme. Il n'a pas admiré une grande église. Il n'a pas admiré des prières des gens. Dans la Bible, on dit que Jésus-Christ a admiré. C'est le seul endroit où on voit Jésus admirer quelque chose. Et il a admiré cette foi. Cet homme-là qui a cru à la parole de Dieu, qui a cru à la puissance de la confession. Cet homme-là a déclaré, Seigneur, ne perds pas le temps. Marcher des kilomètres, c'est une perte de temps. Il suffit simplement que tu dises un mot. Il suffit simplement que tu fasses une proclamation. Et vous savez, parfois, nous perdons beaucoup de temps. Parfois, nous perdons beaucoup de temps. Nous marchons, nous faisons plein de choses inutiles. Alors qu'il faut simplement déclarer une parole. Parfois, nous passons des temps à lutter dans la chair. Parfois, nous passons des temps à lutter avec des hommes. Parfois, nous passons des temps à combattre comme les disciples qui étaient dans la tempête, qui se battaient contre l'eau pour ne pas être noyés dans l'eau, pour ne pas faire naufrage. Des fois, nous nous battons inutilement, alors qu'il suffit de croire et de proclamer la confession, la parole de foi. Parce que le Seigneur dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Laissons les seigneurs combattre pour nous. Laissons les seigneurs se battre pour nous. Laissons les seigneurs nous défendre. Et le Seigneur nous défend lorsque on lui laisse le champ libre afin qu'il puisse se battre. Lorsque nous-mêmes, nous nous battons nous-mêmes, lui, il va pas se battre. Il faut que nous puissions le laisser se battre pour nous. Il a dit, ça vaut pas la peine, Seigneur, de perdre du temps. Ça vaut pas la peine, Seigneur. Ça ne vaut pas la peine qu'on perde le temps. Ne prends pas tant de peine. Vous savez, c'est ça. Lorsque nous avons des confessions de foi, nous arrivons vite là où les gens prennent du temps pour y arriver. C'est ça la foi. Lorsque vous avez la foi, vous allez arriver vite. Quelqu'un va faire 10 ans pour avoir une église de 1000 membres. Mais toi qui as la foi, tu feras un an, même quelques mois, pour avoir une église de 1000 membres. Parce que simplement que tu confesses, Dieu peut toucher Paris. Dieu peut toucher les Français. Dieu peut toucher ce pays. Dieu peut faire un miracle. Et comme tu le confesses, et tu verras dans un an, tu as une église de 1000 membres. Mais j'ai vu des gens négatifs. Oh, la France est dure. Oh, la France est dure. Ce peuple est incrédule. Ils sont têtus. Ils sont matérialistes. Ils sont rebelles. Mais tu confesses cela. Quand tu le confesses, tu es en train de chasser l'onction des multitudes. Tu es en train d'empêcher au Saint-Esprit d'agir par ta bouche pour toucher des multitudes. L'onction des conversions, l'onction qui permet de convaincre les gens pour qu'ils se convertissent, va quitter ta bouche. J'ai vu des gens qui disent, ah, les Japonais sont incrédules. Oh, les Chinois sont durs. Oh, les Blancs sont durs à convertir. Mais quand, toi, tu es un évangéliste, un enfant de Dieu, tu confesses de telles paroles négatives, des condamnations, tu es en train de bloquer toi-même l'onction de Dieu dans ta vie pour ces gens-là. Parce qu'il sera fait, il te sera fait selon ta foi. Donc, nous avons vu que la confession de la foi accélère le processus divin. Il y a gain de temps, il y a gain d'énergie. Nous allons voir maintenant que la confession de foi peut vous priver d'une bénédiction. La confession négative peut vous priver d'une bénédiction. Nous allons aller dans 2 Rois chapitre 7. Oh my God. Combien de gens ont annulé leur mariage? Combien de gens ont annulé leur guérison? Parce qu'ils n'ont pas été sages. Ils se sont permis de dire n'importe quoi. Écoutez, mon frère, ne dis pas n'importe quoi avec ta bouche. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Nous allons aller, nous voyons ici l'histoire des 2 Rois chapitre 7, le verset 2. 2 Rois chapitre 7, le verset 2. L'histoire d'Israël quand la ville a été assiégée. La ville a été assiégée. Et des années, des mois et des mois, il n'y avait plus à manger à un tel point que il y a eu deux femmes qui ont mangé l'enfant de l'un. Et le lendemain, ils devaient manger l'enfant de l'autre. Et les ennemis d'Israël, les Syriens, ont assiégé cette ville de Dieu. Il y avait une telle famine qu'il n'y avait plus du tout à manger. Alors le prophète Élisée est venu avec une bénédiction. Il dit, je commence au verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça c'est l'homme de Dieu qui proclame la parole de foi. Quand vous vivez avec Dieu, quand vous marchez avec Dieu, quand la parole demeure en vous et que vous demeurez dans la parole, quand vous avez la parole de Dieu dans votre esprit, vous connaissez la parole de Dieu et que votre vie vit la parole aussi, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec vous. Le verset dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Oh my God. Oh my God. Quelle bêtise cet homme-là a dû dire. Vous savez, faites attention à ce que vous êtes en train de dire. Faites attention à ce que vous êtes en train de dire. Car c'est dangereux, mes frères. Vous pouvez détruire votre vie. Vous pouvez détruire votre vie. Nous allons voir le verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Voilà une bénédiction. Que Dieu, une délivrance que Dieu a apportée à son peuple. Dieu a fait grâce. Dieu n'avait pas voulu priver cet officier, cette bénédiction. Dieu a promis à tout le monde. Le prophète Élisée est venu avec la parole Réma, la parole révélée. Mais cet homme-là a confessé une confession négative. Et vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit est en nous. Mais le diable aussi rôde comme les lions rugissants. Et je vous dis que le prophète Élisée n'a pas maudit cet homme. S'il avait maudit, il aurait dit. Mais il n'a pas maudit. Mais il a simplement prophétisé. Il a simplement prédit ce qui va arriver. Cet homme-là, en mettant en doute la parole de Dieu, le prophète Élisée a vu que le diable allait profiter des paroles douteuses que cet homme-là allait confesser pour l'empêcher d'avoir accès à la bénédiction. Vous comprenez? Cet homme-là, il parlait dans le vide, mais il sait pas que nous sommes dans un monde spirituel, mon frère. Chez toi, tu es là. Tu es dans, sur terre, mais ce monde est spirituel aussi. Nous avons l'onction de Dieu avec nous. Nous avons les anges de Dieu avec nous. Et nous avons aussi Satan qui guette, qui a le droit d'éroder. Et dis-toi que chaque mot que tu prononces, Satan peut en profiter pour attaquer avec. Il peut en profiter pour utiliser chaque mot que tu confesses. De même aussi, le Saint-Esprit aussi est là prêt à utiliser chaque mot positif et à la gloire de Dieu que tu peux confesser. Et cet officier-là, en mettant en doute avec sa bouche devant tout le monde la prophétie de Dieu, il a annulé pour sa part sa bénédiction. Et Satan en a profité sûrement. Il a dit, cet homme-là, j'ai droit de l'empêcher d'avoir accès à la bénédiction parce qu'il a confessé des paroles qui le condamnent. Et le prophète Élisée, qui voit des choses invisibles, il a vu ce qui allait se passer. Il lui a dit, malheureusement toi, tu verras cela, mais tu ne pourras pas avoir accès parce que avec tes paroles, tu as ouvert une fenêtre à Satan qui aura droit de toucher à ta vie pour que tu ne touches pas cette bénédiction que Dieu t'a prédestinée. Les paroles négatives peuvent vous priver d'une bénédiction. Voilà pourquoi des gens qui dépriment, et les gens qui dépriment quand tu es en train de déprimer ou décourager, fais attention de prononcer des paroles négatives parce que ça va s'empirer pour toi. Ça risque de s'empirer pour ta vie. Ça risque d'aller de pire en pire, mes amis. Ne confessez jamais, pendant les moments de détresse, confessez la victoire. C'est en ce moment-là que vous avez besoin de remonter la pente. Mais quand vous confessez des paroles négatives, des paroles, vous êtes en train de pleurer sur vous-même. Et c'est ça le piège, l'esprit d'apitoiement. Quand on passe un moment difficile de divorce ou de découragement, on s'apitoie. Et quand on s'apitoie, on se met à parler des paroles négatives, des paroles. Et vous allez voir que l'apitoiement en général précède la dépression. Remarquez bien, l'apitoiement précède la dépression. Quand quelqu'un va tout droit vers la dépression ou vers le suicide, il commence toujours par s'apitoyer, à se refermer sur lui-même et à commencer à confesser ma vie. Je n'ai pas envie de vivre, ma vie ne va pas bien, oh ceci, je n'ai pas de chance, Dieu m'aime pas, Dieu aime les autres. Et vous parlez toutes ces paroles négatives-là. Vous êtes en train de semer et donner des flèches, des armes à Satan pour venir vous achever. Au début, vous n'étiez pas déprimé. Vous étiez en train de vous apitoyer, de confesser des paroles négatives. Et vous allez vous rendre compte que cet apitoiement va aller à vous enfoncer. Un moment donné, le sommeil vous manque. Un moment donné, même le peu de joie que vous avez disparaît. Un moment donné, vous allez entrer complètement dans le noir. Quand ça ne va pas, il faut louer le Seigneur. Voilà pourquoi David a dit, mon âme, loue l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu sur moi? Loue l'Éternel. Quand vous passez un moment difficile, au lieu de pleurer, de vous apitoyer, commencez à confesser la parole difficile, la parole de Dieu. Confessez, oh Dieu est vivant. Oui, j'ai des problèmes, mais l'Éternel m'en sortira. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le médecin dit que mon cas est perdu, mais je dis, même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Ta parole me réconforte. Oui, ton esprit est là, même quand les hommes auraient dit, même quoi? Je continue à confesser la parole, proclamer la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu pendant les moments difficiles. Et je vous dis, vous allez finir par expérimenter la gloire de Jéhovah. Nous allons voir que la confession négative peut légitimer les attaques des démons. Luc chapitre 22, allons-y voir. Luc chapitre 22. Toute parole qui sort de votre bouche est une semence utilisable par le Saint-Esprit ou par les démons. N'oubliez jamais ça. Et de fois on dit, Satan est fort, Satan m'a fait ceci, mais non, il n'est pas aussi fort. Celui qui s'égarde, l'ennemi ne le touche point. Ouh, j'aime ça. Celui qui s'égarde, l'ennemi ne le touche point. Mais comment peut-on se garder si on ne garde pas sa bouche? Celui qui s'égarde commence par garder sa bouche. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ouh! Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ouh! Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié trois fois de me connaître. Que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Ouh, vous vous rendez compte? Simon a prononcé des paroles de reniement. Il a renié le Seigneur. Et le diable a profité de ses paroles pour réclamer Simon. Vous savez, le diable a des droits. C'est pour vous dire que le parole que nous confessons peut donner une légitimité à Satan pour toucher ton fils, pour toucher ta femme, pour toucher ton mari, et même pour toucher ta famille, ton église. Satan a des droits. Faites attention à ce que vous dites. Et Jésus a prié le Père. Il a prié le Père. Il a réclamé grâce. Oh, merci Seigneur. Si c'est pas toi, nous sommes tous perdus. On a souvent dit des bêtises. Donc, la parole que nous confessons peut légitimer les attaques démoniaques. Les paroles que nous confessons peuvent détruire nos vies. Et enfin, on se pose des questions. Comment un chrétien, moi je me rappelle d'une sœur en Christ, on roulait en voiture avec lui, je lui ai dit, un enfant de Dieu qui est intègre avec Dieu, qui marche de la sainteté, ne peut pas faire un accident de voiture. Il m'a dit, mais non, Bishop, Dieu peut le permettre. Il dit, écoutez, moi, je me tiens à cette parole. Aucun malheur ne m'atteindra. Un enfant de Dieu qui demeure dans la parole de Dieu et qui vit la parole de Dieu, qui est intègre, qui donne pas accès à l'ennemi, accident de voiture, chute d'escalier, ça ne peut pas arriver. Elle a contesté. Elle a confessé que ça peut arriver. Et quelques mois après, ça lui est arrivé. Elle a fait un accident. Je dis, vous voyez, tout ce que vous confessez, est-ce que c'est Dieu qui a créé cet accident? Non. C'est le diable qui a prophétisé. C'est le diable qui a profité de votre confession négative. Votre confession négative légitime, Satan. Quand on dit le mot réclamer, on réclame ce qui nous appartient. Vous comprenez? Satan n'a pas demandé, mais il a réclamé. Donc il est allé devant Dieu pour dire, Seigneur, je dois de toucher à la vie de Pierre. Je dois. C'est une réclamation. Parce qu'il avait des raisons. Il avait un droit. Tu as renié Jésus. Tu as renié Jésus. Donc tu n'as plus de part avec lui. Donc Pierre m'appartient. On ne réclame pas ce qui t'appartient pas. On réclame quand on en a droit. Parfois quand nous confessons certaines paroles, nous donnons au diable des droits sur nous, mes frères. Des droits sur votre santé, des droits sur votre vie, sur vos enfants. Alors faites attention. C'est bien de prier matin, midi, soir. Satan, tu es lié, tu es lié, tu es lié. Commençons d'abord par lier notre propre bouche avec le sang de Jésus et arrêter de dire n'importe quoi. Ce que vous confessez est une création. Nous allons voir Exode 4. La confession de la foi peut même vous amener à sauver une vie. Exode 4, le verset 24. Oh, N'oubliez pas que tous les jours, nous sommes en prière sur Internet dans onction.com. Onction.com, c'est tellement simple. Écrivez onction en français, onction.com. Nous sommes en prière tous les jours que Dieu a créé. À 15h, je dirige la prière moi-même. Et il y a une centaine de personnes. Aujourd'hui, c'est l'une des pages Internet le plus visitées en francophonie. Centaines de personnes minimum tous les jours qui viennent pour tous les jours. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'on dit époux de sang à cause de la circoncision. Ouh! Séphora a sauvé la vie de Moïse. Voilà pourquoi quand Aaron et Myriam ont commencé à critiquer Séphora, Moïse a dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Écoutez-moi, les paroles de critique ne doivent pas être dans votre vie. Je vous donne un conseil. Nous ne sommes pas des juges. Il n'y a pas un jury. Nous sommes là pour servir Dieu. Nous sommes appelés à dénoncer des choses mal. Nous sommes appelés à dénoncer les œuvres des ténèbres, mais pas à critiquer des hommes. Critiquer, c'est citer les noms des gens et parler mal d'eux. Nous ne sommes pas là pour cela. Chacun rendra compte à Dieu de sa vie et de son ministère. Nous avons beaucoup à faire chacun dans nos vies. Voilà comment Séphora a déclaré, tu es pour moi un époux de sang. Il a sauvé la vie de son mari. Il a sauvé Moïse. Et c'est un passage qui m'a toujours impressionné, mes amis. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Dieu vous a fait des promesses. Dieu vous a appelé au ministère. Dieu vous a donné l'onction. Vous avez vu Dieu face à face. Moïse a vu Dieu face à face. Il a parlé avec Dieu. Dieu l'a utilisé. Il a fait des miracles. Il a reçu le bâton. Il a reçu une mission énorme, apostolique, grand, un ministère puissant. L'un des ministères le plus puissant terrestre. Mais Dieu a voulu le tuer. Dieu a voulu le tuer parce que sa vie n'était pas en ordre avec Dieu. Serviteur de Dieu, homme de Dieu, faites attention. Vous n'êtes pas au-dessus de la parole de Dieu. Beaucoup parmi vous meurent dans des accidents. Beaucoup parmi vous meurent comme des païens, comme des voyous, comme des brigands. Parce que vous ne craignez pas souvent Dieu. Nous ne craignons pas toujours Dieu. Faites attention. Dieu a voulu tuer Moïse. Et c'est là que l'esprit de Christ qui était dans cette femme, Séphora, l'esprit de Christ, ça c'est un peu l'image. Séphora, c'est l'image des nations. L'esprit de Christ qui était en elle a intercédé. Séphora n'était pas juive, mais elle a eu la révélation par le Saint-Esprit qu'il fallait. Le problème venait de là. L'enfant n'était pas circoncis. Il a circoncis l'enfant, il a pris le prépuce, il a touché le pied de Moïse et il a fait une déclaration. Une parole, tu es pour moi un époux de sang. Ouh! Dieu respecte l'alliance des sangs. Dieu lui-même traite avec le sang. Si Moïse n'a pas fait la circoncision, que veut dire tu es pour moi un époux de sang? Ça veut dire que Séphora a rappelé à Dieu. Séphora, en confessant cette parole, il a rappelé à Dieu qu'elle était une seule chair avec Moïse. Parce que Dieu a dit, les deux deviendront une seule chair. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors, Séphora a voulu rappeler à Dieu, si Moïse n'a pas fait la circoncision, mais moi je le fais maintenant. Et cela doit être amputé à Moïse. Parce que nous sommes une seule chair. Moïse n'a pas circoncis son fils. Il a désobéi. Mais moi, je le circoncis pour elle. Donc je paye la dette pour elle. C'était l'esprit de Christ dans Séphora. Oh, il y a des femmes merveilleuses. Alors, comme lui, il a fait la circoncision et il a pris le prépuce de l'enfant, il l'a mis sur le pied de Moïse et il a déclaré, tu es pour moi une épouse de sang. Donc, nous sommes une seule chair. Nous sommes liés par le sang. Donc, ce que je fais, la circoncision que je fais, comme nous sommes une seule chair, c'est toi aussi qui l'as fait au travers de moi. Et donc, Dieu, le jugement de Dieu s'est arrêté tout de suite parce que Dieu voulait tuer Moïse parce que il n'avait pas fait de circoncision. Mais comme Séphora l'a fait et a déclaré que nous sommes une seule chair, donc ce que Séphora a fait, Moïse l'a fait aussi spirituellement. Et voilà comment Dieu a laissé Moïse vivre. Les déclarations de foi peuvent sauver une vie, peuvent changer une nation, peut changer ton existence. C'est que les gens cherchent pendant des années, pendant des heures de prière. Mais quand tu déclares seulement par la foi, en un instant, cela devient réalité. Mon ami, j'aimerais te dire, je t'aime de l'amour de Dieu. Prenons, faisons attention avec tout ce que notre bouche confesse. Faisons attention avec tout ce que nous prononçons, mes amis. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans Romains, on dit, Romains 10, on va voir Romains 10, verset 10. Avant de terminer, on va lire ce verset. Romains 10, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit Romains 10, verset 10? En confessant de la bouche. Alléluia. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et j'ai voulu un peu rentrer dans la profondeur de ce verset. Et quand on parle du salut, il ne s'agit pas seulement du salut. Dans le mot salut, il y a le salut de l'âme, il y a le salut du corps, il y a tout dans le mot salut. Et en croyant du cœur, on parvient à la justice. Ça veut dire quoi? C'est lorsque nous croyons du cœur, que nous accédons à nos droits, à la justice de Dieu. Lorsque nous croyons du cœur, nous accédons à nos droits. Je crois à la prospérité et je dois à la prospérité. Donc la prospérité est à ma disposition parce que j'y crois. Je crois à ce verset qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que je crois cela dans mon cœur, automatiquement, je dois à cela. Mais cela n'est pas encore la réalité. Je dois, oui. C'est comme si vous recevez un chèque. Vous croyez, on vous donne un chèque. Vous avez droit à votre salaire. Et le patron vous donne un chèque. Mais c'est pas pour autant que l'argent est encore dans votre compte. Maintenant, il faut que tu confesses de la bouche pour que cela devienne réalité, que tu le vives, cela devienne ton salut, que tu puisses le vivre. Il faut maintenant aller encaisser le chèque. Mais le chèque, on l'encaisse pas dans une vie qui n'est pas conforme à la vie de Dieu. Il faut encaisser le chèque dans un compte qui respecte les normes bibliques. Le chèque céleste n'est encaissé que dans une banque céleste. Donc, en croyant du cœur, tu parviens à la justice. C'est-à-dire que tu obtiens justice de tout ce qui te revient spirituellement. Mais en confessant de la bouche que ce que tu as obtenu d'une manière spirituelle peut devenir concret et réel dans le monde matériel. Mes frères, apprenons à confesser la parole de Dieu pendant nos temps de prière. Je déclare, je proclame la prospérité. Je déclare, je proclame la justice de Dieu. Je déclare, je proclame la guérison pour mes frères. Je déclare, je proclame que tout va bien. Je déclare et je proclame que l'Éternel marche avec moi. Je déclare, je proclame que les anges sont autour de moi. Je déclare que je proclame qu'aucun malheur ne m'arrivera. Je déclare et je confesse que je ne ferai jamais d'accident. Je déclare et je confesse que je n'aurai jamais de cancer. Moi, je vous dis, je déclare et je proclame que je ne mourrai jamais dans un accident d'un avion. C'est impossible. Parce que je le confesse. Mais si vous confessez le contraire, ça vous concerne. Et je me dis, il y a quelque chose qui fait fuir les anges autour de nous. Quand on confesse, Dieu m'a abandonné. Ah, Dieu m'a abandonné. Dieu ne s'occupe pas de moi. Alors les anges que Dieu a envoyés ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Elle-même, elle déclare, elle confesse que Dieu l'a abandonné. Et les anges s'en vont. Et les démons disent, mais le chemin est libre pour nous. On va s'installer pour pleurer avec elle et pour la mener au suicide. Ne déclarez jamais que Dieu m'a abandonné. C'est contraire à la parole de Dieu et c'est méchant, c'est injuste, c'est traiter Dieu de quelqu'un de mauvais. Dieu ne t'a jamais abandonné. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez le temps, venez à nos cultes. Et nous, et ce matin, dimanche matin, nous allons recevoir le pasteur, l'évangéliste américain qui fait la croisade. Il sera là ce dimanche matin à Bergevin. Et si vous voulez vivre la guérison des miracles, venez tous ce dimanche matin à Bergevin à 9h30. Et dimanche matin, aussi nous avons culte. Moi, je serai aussi à Rivière-Roche, le matin, Martinique, à partir de 8h. Je vous aime de l'amour de Dieu. À bientôt.
Guadeloupe, c'est ton temps. Viens découvrir la grande manifestation de la puissance de Dieu du jeudi 24 au dimanche 27 mars 2011 avec l'évangéliste international le docteur Roger Outsma et son épouse Janice.
Je vais seul avec lui à la montagne. Voilà. Dieu est toujours au contrôle.
Dios tiene siempre el control.
Dieu est toujours au contrôle.
Dios tiene siempre el control.
Sois calme, garde confiance à Dieu. Et rien n'est jamais impossible.
Y nada es imposible.
Il n'est jamais trop tard.
Nunca es demasiado tarde.
Il n'est jamais trop tard.
Nunca es demasiado tarde.
Tout est toujours possible.